Canus, c'est la plus rebelle des radios. On vient d'écouter Amon Tobin, avant lui, imprononçable Nacht, Bernstein, Akokte et Jones, et puis avant encore Bashung.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Patchworld en direct tous les vendredis de 16 à 17h sur les ondes de Radio Canu. Vous êtes dans Patchworld, l'émission qui mélange les genres et les styles. You better keep your hands on your guns, 'cause if you're looking for troubles. Ça y est, aujourd'hui, janvier est terminé. Nous sommes déjà le vendredi 1er février 2019. Il a plu sur Lyon et j'espère qu'il va y avoir de belles éclaircies. Je vous souhaite un excellent week-end et je vais vous annoncer si vous avez des envies de sortir. Il y a plein de nouveautés en ce moment. Alors voilà ce qui va se passer. Alors bientôt vous aurez du jazz chilien, mais je vous donnerai l'annonce bientôt. Il y a des stages de peinture qui vont avoir lieu sur du portrait, c'est dans un atelier dans le 5e. Alors je vais vous retrouver l'annonce que j'ai mis dans mon petit agenda. Voilà, c'est noté. Alors atelier peinture, c'est l'atelier de Michel Cossin-Bellon. Je vous en ai déjà parlé parce que c'est cette dame qui organise une biennale des meilleurs pastellistes internationaux qui se trouve donc tous les deux ans à l'Orangerie du Parc de la Tête d'Or. Donc cette dame, Michel Cossin-Bellon, qui est une grande artiste peintre, a un atelier 45 rue Saint-Georges. Et dans cet atelier, elle a invité l'artiste Amorem à proposer des stages autour du dessin et de la peinture. Donc le 14 février 2019, le 21 et 28 mars. Et donc c'est Amorem, vous pouvez trouver, je pense, les informations en tapant Amorem ou Michel Cossin-Bellon. Je vous en aurai davantage quand j'aurai le flyer sous les yeux.
Oh.
Alors Serge Sommer qui donne des cours de théâtre. Serge Sommer, lui, il a une compagnie de spectacle vivant qui s'appelle Swing Théâtrois. Donc il donne des cours de théâtre avec, il fait des festivals. Et donc il y a des cours les lundis soirs au centre social culturel du Point du Jour et les mercredis soirs à Charpennes-Tonquin. Et ils seront en représentation avec sa troupe à l'Anagramme du 28 février au 3 mars. Donc je pense qu'il suffit de taper Théâtre Anagramme pour avoir toutes ces informations. Également, ce soir, si vous allez au Rita Plage, si vous êtes sur Villeurbanne, c'est près du Totem, cours Tolstoï. Le Rita Plage, vous avez aussi les infos sur leur site. C'est un bar associatif et libertaire très accueillant. Ils font des plats à prix libre le soir. Et c'est un concert du groupe Attentat à la pudeur avec Charlie qui chante. Demain c'est samedi, donc dimanche à Vienne, toute la journée de 10h à 18h, c'est le Cercle des Poètes Viennois qui organise toute une journée avec lecture de slam, de poèmes, de chansons avec les groupes Zen Altitude, le duo des Gavroche et bien d'autres. Il y a également des peintres qui exposent et des jeunes en micro-édition et en auto-édition qui présentent leurs livres, leur poésie et bien sûr un buffet. Comité des fêtes de Vienne. Je précise que c'est Vienne à côté de Lyon et pas en Autriche. Ça nous fera moins loin. Et puis toujours sur Vienne, tiens, puisqu'on y est, les grands esprits se rencontrent. La galerie Letty propose une exposition sur les traboules du 16 au 28 février.
Il ne sort plus une note, il ne sait plus où il est. Dans sa tête de linotte, le vide se fait. Toujours à chercher la rime, le poète s'est défait. Ses recettes de cuisine restent sans effet. Maudit, maudit, maudit homme, maudit ton stylo. Tu n'écris plus pour personne, maudit ne dis mot. Noyé sur ta feuille blanche à petits carreaux, plus rien en toi ne déclenche l'appétit des mots. Voici que le capitaine, la faute à Verlaine, abandonne son bateau, la faute à Rimbaud. Maudit, maudit, maudit homme, maudit numéro, que n'appelle plus personne, maudit ne dit mot. Si la fièvre alexandrine hante ton cerveau, pas le moindre synonyme ne monte au créneau. Adieu douce Colombine, bonne nuit Pierrot. Ton poème se termine par manque de mots. Maudit, maudit, maudit homme, maudit camelot. N'intéresse plus personne, maudit ne dit mot.
Très beau son de contrebasse. C'est donc Patrick Hanet que je remercie de m'avoir offert son CD qui s'appelle Étranger à personne. Et c'est le quatrième titre de l'album qu'on vient d'écouter, Maudit Homme. Voilà, donc Patrick Hanet, j'espère le recevoir bientôt dans Patchworld. Pour introduire, je ne vous ai pas présenté l'invité du jour, j'ai gardé le suspense. C'est notre amie Roselyne Villaumet. Et elle va présenter bientôt un livre qui va sortir au mois de mars, Complainte du point noué. Roselyne, bonjour.
Bonjour.
Tout va bien ?
Pour le moment, oui.
Voilà, donc tu connais un peu déjà, tu as l'habitude de la radio, parce que tu fais une émission qui s'appelle Mosaïque. C'était en Suisse, c'est ça ?
Non, c'était à Lodève, Radio Lodève.
Radio Lodève. Tu peux nous dire où c'est ?
Lodève, c'est une petite ville de l'Hérault, qui est un peu au-dessus, qui est près de... Enfin, du début de la montagne des Causses, et qui est près de Clermont-l'Hérault, aussi de Montpellier, quoi.
Vers Montpellier. Très bien. Alors, ce livre, Complainte du point noué, il va sortir bientôt ?
Il va sortir au mois de mars. Il est coédité, ce qui est quand même un peu exceptionnel, par un éditeur donc, du Languedoc, et puis aussi par un éditeur du Lyonnais.
Donc, édition Domains.
Ah, Domains, c'est celui du Languedoc, et livre EMCC, c'est l'édition lyonnaise.
Donc, Complainte du point noué, qu'est-ce que ça veut dire, point noué ?
Le point noué, c'est un point pour le tapis, mais un point algérien.
Donc c'est un peu, tu parles dans cette histoire, c'est très documenté, c'est à partir de faits réels.
C'est à partir de faits réels. Je raconte un peu l'histoire de l'atelier de l'Odève de tapis, qui est devenu, ça c'est assez exceptionnel, la seule annexe de la grande savonnerie parisienne. C'est-à-dire que cet atelier, qui a été créé pour des femmes de harkis au moment où elles quittaient l'Algérie et arrivaient en France, elles étaient accueillies en France dans des camps, la plupart du temps d'ailleurs. L'atelier a été créé pour utiliser leur savoir-faire et il est devenu finalement un atelier très important puisque ces tapis partent dans le monde entier, partent à l'Elysée, partent dans les... Il y en a qui sont partis chez Pompidou, enfin le château de Giscard d'Estaing. C'est assez étonnant de voir la trajectoire qu'il y a entre le départ du tapis et finalement l'arrivée.
Donc est-ce qu'il y a quand même une histoire romancée ou c'est vraiment documentaire ?
C'est romancé, c'est-à-dire que je pars de faits réels, mais j'ai complètement inventé.
Il y a des personnages qui sont
complètement inventés et les situations sont inventées aussi.
Donc c'est un roman de 160 pages à peu près.
Oui, c'est ça.
Il va bientôt sortir donc en souscription. Vous pouvez avoir toutes les infos sur édition Domains.
Domains.
D-O-M-E-N-S. Domains. Et aujourd'hui, donc, je t'ai invité parce que pour un livre qui a déjà été édité il y a quelques temps,
il y a un an et demi environ, oui. Un recueil de nouvelles.
Alors, il va falloir en choisir une pour qu'on ait le temps d'en parler un petit peu, parce que l'émission fait moins d'une heure et du coup, on va être obligé. On a mis du temps. Donc, tu as proposé sur une que tu m'as laissé choisir.
Voilà.
Et on a dû réduire un petit peu. Donc, on va en lire quelques passages. Donc, c'est notre invité du jour pour ceux qui
le
prennent.
Le début, quoi. Ce sera une suite. Je lis le début. C'est à peu près une grosse moitié de la nouvelle.
Voilà. Roselyne Villaumet en direct sur son compte.
Ma chérie, voulez-vous prendre votre goûter ? Cette voix, cette main qui frôlait son épaule et lui saisissait le poignet. Sonia ? Sylvie ? Caroline pensait la reconnaître, mais impossible de se décider pour un prénom. L'éternel tablier bleu lui rappelait la joue au passage. Elle se retrouva plantée sur ses deux pieds, en équilibre précaire, mais fermement poussée vers l'entrée de la salle à manger. Un bras charnu et solide soutenait sa taille. Les deux femmes avançaient lentement, comme glissant au travers de silhouettes floues qui les entouraient. Ce ne fut qu'une fois assise devant son assiette que Caroline se prit à détailler ses voisins de table. Il y en avait deux, les mêmes depuis une éternité. Au moins une semaine. À sa droite, un homme coincé dans son fauteuil roulant, à la peau étrangement lisse, au regard transparent. Un monsieur qui souriait presque toujours en se tournant de son côté. Elle ne pouvait s'empêcher de lui sourire en retour. À sa gauche, une femme à l'épaisse chevelure bouclée, d'un blanc éclatant, qui les observait, l'air mauvais. Le contenu de sa tasse de chocolat suivait son cours habituel le long des plis de sa serviette, fichée autour du cou, puis rejoignait sa robe pour former une petite mare brunâtre, d'où émergerait sans doute la gueule toute verte d'une grenouille. Oh, Caroline sursauta et ferma les yeux pour que cesse l'hallucination. Puis s'efforça de boire sa tasse de chocolat gorgée après gorgée, en prenant le temps d'en savourer la saveur onctueuse, sans se tâcher. Et c'était tellement difficile. L'effort faisait trembler sa main. C'est à ce moment précis qu'elle prit conscience de l'intérêt qu'elle suscitait auprès du groupe de soignants réunis dans un coin de la salle, dont les regards convergeaient dans sa direction avec la même curiosité. Elle en fut troublée. Le groupe était en état de sidération. Aides-soignants, infirmiers, animatrices, tous, hommes et femmes, restaient plantés à l'entrée de la salle, fascinés par le tableau qu'offrait Caroline, entourée des deux résidents, simplement préoccupés par la nécessité de goûter proprement. C'était une petite bonne femme aux fins cheveux blancs clairsemés qui encadrait un visage rond, d'où le nez pointait avec un reste de hardiesse. La bouche était minuscule et très rouge, le corps absent, perdu dans une robe trop grande, la peau ambrée, fripée à la façon d'une pomme trop cuite. Caroline vivait dans la maison de retraite depuis une dizaine d'années, qui compterait dans 2-3 ans une petite nonagénaire de plus, car le filet de vie qui lui restait ne semblait pas près de s'éteindre. On ne lui connaissait pas de famille. La nièce qui l'avait accompagnée au moment de l'inscription s'était empressée de disparaître, la laissant entre les mains expertes d'une tutrice. Caroline ne s'insurgeait jamais, acceptait sa vie comme si elle ne la concernait plus, ne l'intéressait pas, sans manifester la moindre tristesse. Elle faisait tellement partie des meubles qu'elle devenait transparente, aspirée par un ailleurs qui planait au-dessus de toutes les têtes et qui terrifiait ceux qui acceptaient de s'en apercevoir. La nouvelle qui venait de tomber n'était simplement pas croyable. Une maison de production ZU, dont la spécialité consistait à déterrer de vieux films oubliés, des pépites enfouies, afin de les rendre à la mémoire collective, venait de téléphoner. Une certaine comédienne, nommée Caroline Millet, avait tenu le principal rôle féminin d'un film tourné vers la fin des années 40, La Ronde des Jours. Olga, l'animatrice, qui avait pris la communication, crut comprendre que la bobine du film avait été retrouvée par un cinéphile proche du réalisateur parmi des centaines d'autres empilés à la diable sous des rayons poussiéreux dans les locaux de Canal+. Il avait su trouver les mots et l'énergie pour convaincre ZU Productions de s'emparer de cette œuvre d'un autre temps qui avait tant de résonance avec notre actualité toujours en souffrance, tant de choses à nous dire au-delà des années. Il avait fallu un certain temps pour organiser la restauration numérisée de la bobine, avec l'aide du Centre national de la cinématographie. Mais la voilà, prête à être offerte à un public d'initiés. L'équipe de la production avait très vite localisé le comédien principal. Pour Caroline, ce fut plus ardu. Enfin, elle était retrouvée. À temps pour participer à la présentation du film devant la profession, au prestigieux Cinéma des cinéastes à Paris. Séance présidée par le président de la commission des films de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Caroline Millet pouvait-elle se rendre à la séance prévue dans 2 semaines? Accompagnée, s'il le fallait. Prévoir d'arriver en fin d'après-midi afin de participer à une interview pour la chaîne Arte. Tous les frais seraient pris en charge. Abasourdi. Olga avait promis d'en référer à la direction de la maison, puis de les rappeler sans délai. Également surprise par cette proposition jugée surréaliste, la direction avait hésité, puis accepté à la condition qu'Olga veuille bien se charger de l'accompagnement. Sans trop réfléchir, Olga s'était engagée, ravie de se lancer dans ce qu'elle considérait comme une aventure inespérée. En cet instant, le groupe observait Caroline, cherchant à déceler des traces d'une vie d'actrice de cinéma sur la petite vieille qui goûtait lentement. Olga s'approcha de sa table, suivi par Sylvie, puis par Anthony l'infirmier, car un malaise était toujours à craindre avec ses résidentes fragiles. Ils entourèrent les trois vieillards. Olga s'évertuait à trouver les mots justes, capables d'exposer la situation sans trop bousculer l'héroïne du jour. Caroline ne les aidait pas, grignotait sa madeleine en souriant, les yeux perdus sur son assiette. Caroline, mademoiselle Millet, c'est vrai ? Vous avez tourné dans un film quand vous étiez jeune ? Vous vous en souvenez ? Caroline ne répondait pas. Ses yeux se tournaient vers la fenêtre et le jardin. Vous vous en souvenez ? La ronde des jours. Vous aimeriez le revoir ? C'est possible, Caroline. Ça vous ferait plaisir ? La vieille dame ne réagissait toujours pas. Les soignants, désarmés, respectaient son mutisme. Une petite voix finit par émerger du silence. Oui, je veux le revoir. Je m'en souviens très bien. Caroline se tenait assise dans un grand fauteuil devant la porte de sa chambre. Elle attendait, toute pimpante, habillée et coiffée de frais, sa petite frange bouclée maintenue par une résille, un soupçon de rouge sur le bord des lèvres, sur l'extrémité des pommettes. Olga tardait. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent enfin sur la jeune femme qui découvrit une autre Caroline, reflet ingénu d'un temps révolu, comme un tableau longtemps posé à l'envers sur un mur et que l'on venait de retourner. Les deux femmes déambulèrent à travers l'établissement. Les robustes mollets d'Olga entraînaient à leur suite les jambes frêles de Caroline. Son bras expérimenté enserrait la taille gracile. Certains résidents, les voyant passer, clignaient des paupières. Il leur semblait que Caroline flottait au bras de l'animatrice et qu'elle s'envolerait dans le ciel dès la porte du dehors franchie. Le chauffeur du taxi était en grande conversation avec la directrice, et s'ils s'arrêtèrent de parler à l'apparition des deux femmes, leur sourire tardait à s'éteindre, restait rivé sur la silhouette de Caroline, qui plongea à l'arrière de la voiture et se cala dans les coussins, le regard enfoui au plus profond d'elle. Surprise, la directrice prodigua ses derniers conseils et encouragements, mais renonça à embrasser sa pensionnaire. Elle resta sur le pas de la porte, longtemps après la disparition du taxi au coin de la rue. La voiture ne tarda pas à rejoindre l'autoroute en direction de Paris. Comme Caroline s'obstinait à se taire, Olga échangea quelques mots avec le chauffeur, puis très vite se concentra sur sa voyageuse. Depuis que la voiture avait abordé les faubourgs de la capitale, Caroline s'était redressée. Sa petite tête au nez pointu oscillait au rythme des virages et ses yeux se faisaient perçants. Un oiseau dont les ailes s'animaient, pensa Olga. Car la vieille femme fixait avec obstination les rues, les immeubles qui défilaient, les passants croisés l'espace d'une seconde. Son corps frémissait. Sa mâchoire en mouvement semblait psalmodier une litanie muette. Par moments, elle sursautait, agrippait la banquette, fermait les yeux pour les rouvrir aussitôt. Le taxi traversa Paris en l'abordant par la porte d'Italie. Il suivit l'avenue de Choisy, que bordaient de petits gratte-ciel. Caroline avait saisi le haut du siège devant elle et restait pétrifiée, tandis que le véhicule traversait la place d'Italie, suivait l'avenue des Gobelins, rejoignait Jussieu, passait sur la Seine, pour atterrir place de la Bastille. La main de Caroline se posa sur la vitre, car le taxi dépassait maintenant la rue Saint-Antoine, pour rejoindre la place de la République en suivant le boulevard Beaumarchais. Il devait être 17h et la circulation se densifiait. Le véhicule faisait du surplace en suivant les bus, mais Caroline ne manifestait aucune impatience, restait comme électrisée. On longeait les grands boulevards à présent, Bonne Nouvelle, Poissonnière, la gare Saint-Lazare. À l'image d'un cheval qui devine l'écurie, Caroline remuait, piaffait d'excitation, car la place de Clichy ne tarderait plus. Le taxi venait de passer devant le Moulin Rouge. Même Olga sentait sa gorge se nouer alors qu'elle découvrait enfin Paris. Elle ressentait surtout l'émoi de sa compagne, devinait le fil de toute une vie qui se dévidait en libérant sa cohorte de fantômes. Le taxi s'arrêta devant le 7 avenue de Clichy en double fil, le chauffeur ne tenant pas à s'attarder plus qu'il n'était nécessaire. Olga peina à sortir Caroline de la voiture. Le corps paraissait pétrifié, recroquevillé. Les premiers pas résistaient, hésitaient, puis retrouvaient une certaine fermeté dans le sillage d'Olga. Caroline redressa brusquement la tête et s'accrocha au bras de l'animatrice, qui leva à son tour le visage et ne put retenir une exclamation de surprise. Au-dessus de l'entrée du cinéma se déployait une immense affiche. Un jeune homme à la tignasse sombre tenait contre lui une jeune fille aux joues rebondies, à la chevelure paille, ramassée en une grande natte plongeant sur la poitrine. La peau du visage et de la gorge était constellée de petites étoiles pâles. Des noms se détachaient en haut de l'affiche. Pierre Barry et Caroline Millet. Sidérée, Olga entendit une petite voix qui murmurait à ses côtés « C'est moi, vous savez, la jeune fille sur l'affiche, c'est moi !» Bien sûr, mais c'était tellement difficile à réaliser. Déjà un homme et une femme qui attendaient devant la porte se dirigeaient vers elle, s'empressaient autour de Caroline. « Mademoiselle Millet, c'est un miracle de vous avoir retrouvée. Venez vite vous installer à l'intérieur. L'équipe d'Arte nous attend pour l'interview. Vous allez revoir Pierre Barry. » Un vieillard, très maigre mais alerte, les avait rejoints. Appuyée contre le buste d'Olga, Caroline regardait Pierre, qui la regardait. Au-delà du faisceau de rides, deux vieux complices tentaient de retrouver les traces d'un visage connu. Comme ils restaient plantés en face l'un de l'autre, perdus dans un silence qui promettait de durer, les autres s'animèrent, les entraînèrent à l'intérieur du bâtiment. Caroline tremblait. Une vive émotion l'avait saisie. Ses repères fragiles se bousculaient. Elle se sentait perdue dans l'espace et dans le temps, fermait les yeux, se concentrait sur sa respiration, s'abandonnait à ceux qui l'entouraient. On la fit asseoir sur une chaise dans une vaste salle aveugle. Quelques sièges avaient été disposés en demi-cercle face à la caméra, éclairés par deux projecteurs. On lui proposa une tasse de chocolat pour la retaper après ce long périple. Caroline était terrifiée par la difficulté de ce qui l'attendait. Boire proprement devant ces gens qui ne cessaient de la regarder. Elle tenta des gestes maladroits, ne tarda pas à se tâcher. Olga n'osait pas intervenir. Le personnage de Caroline lui échappait. On ne materne pas une actrice devant tout ce beau monde. La vieille femme fut enfin libérée de son fardeau et se tint droite sur sa chaise, secoua sa tête comme pour évacuer les multiples bruits qui saturaient l'espace. Son regard croisa celui de son voisin de droite, un vieillard obèse, recroquevillé dans un fauteuil roulant qui ne lui rappela rien tout d'abord. Elle l'entendit prononcer son prénom, une certaine façon de traîner sur la dernière syllabe, Caroline. Et le masque tomba. Elle revit Henri Courot, ce jeune homme aux traits réjouis, à la parole chantante, capable de mener sa troupe presque sans y toucher, mais fermement, car il s'agissait de sa première réalisation cinématographique et qu'il méprisait précisément ce qu'il avait à dire. Puis, elle tourna son visage vers la gauche et Pierre Barry, qui lui présentait son profil émacié, le regard perdu, fixé droit devant lui. Elle retrouva brusquement les manières altières de son partenaire, cette angoisse diffuse qui ne lui laissait pas de répit, dont se servait sans le moindre état d'âme ce prédateur affable, Henri Courot. Une jeune femme s'agita devant Caroline. L'interview pouvait commencer. Et vous, Caroline, où en étiez-vous lorsque Henri Coureau vous a rencontrée ? Un temps, puis... Je sortais du conservatoire de Paris, où je suivais les cours de Louis Jouvet. Surprise dans l'assistance. Je n'avais jamais fait de cinéma. Comment avez-vous rencontré Henri ? Il était venu assister à une présentation de travaux d'élèves. Je crois me rappeler que nous avons beaucoup parlé ensuite. C'est très flou dans ma tête, vous savez. Un ange passa. Les regards butaient sur les trois artistes, assis très dignement sur leurs chaises, traversés par une sorte d'énergie tranquille, détachée, presque mystérieuse. Olga s'interrogeait. Quel avait bien pu être le parcours de cette Caroline, solitaire, comme blasée ? Justement, la journaliste insistait. « Caroline, pouvez-vous nous parler des temps forts de votre expérience de comédienne ? Les souvenirs qui vous restent de ce tournage ont probablement marqué un tournant dans votre vie. » Ainsi sollicitée, la vieille femme prit beaucoup de temps. Il lui fallait, pour aborder ses souvenirs, rassembler une multitude de morceaux, leur donner un semblant de cohérence. Elle dévoila quelques pans de sa jeunesse, des remplacements à la Comédie Française, une tournée en Afrique avec les pensionnaires de la maison. Elle jouait Agnès dans l'école des femmes de Molière. Elle demeura silencieuse quelques secondes, concentrée sur un ailleurs, qui fit surgir deux fossettes au creux de ses joues. Son visage s'illuminait. Elle avait joué le rôle de Poil de Carotte dans la pièce de Jules Renard adaptée de son roman, près de 100 fois, partout en Europe et même dans une partie du monde, le Maroc, Tahiti, Nouméa. Le public me prenait pour un jeune garçon vraiment, c'était tellement drôle. Quand tu as tourné dans mon film, tu n'avais pas tant d'expérience. En l'interrogeant directement, Henri Coureau avait bousculé Caroline, rompu le lien qui la reliait à sa jeunesse. Elle le regardait, interdite, presque au bord des larmes, car incapable de reconstituer le puzzle. « Je ne sais plus. Pardonne-moi. » « Tu étais mignonne, ça je m'en souviens. Tu répondais à mes consignes tout naturellement, sans chercher à comprendre. » Caroline se prit à sourire à cette évocation. Oui, ça avait été agréable de se laisser guider sans réaliser les enjeux de cette nouvelle vie, tellement différent du théâtre. Vous aimiez le contact avec le public ? À nouveau, un temps. La vieille dame fermait ses yeux. La journaliste dut s'approcher très près d'elle pour recueillir les bribes de son souvenir. J'avais peur. Les gens m'entouraient, me regardaient, sans me parler quelquefois. C'était exaltant. C'était très dur. Je ne comprends pas bien. C'est difficile de l'expliquer. C'était affolant de voir ces gens qui me regardaient, comme si j'étais un animal de cirque. C'était pourtant une forme de reconnaissance. Je ne sais pas. Peut-être. La journaliste comprit qu'il serait malvenu de continuer dans cette voie. La pauvre femme tremblait maintenant devant son auditoire, déconcertée. Accepteriez-vous de nous toucher deux mots de votre vie privée ? Les yeux de Caroline s'élargirent. Sa petite bouche s'entrouvrit. Ma vie privée ? Votre vie de famille ? Caroline resta sans voix. C'était un aspect de son existence dont elle n'avait jamais pris conscience, qu'elle avait sans doute occulté. Elle finit par expliquer qu'elle n'avait pas vu le temps passer, qu'il y avait eu des rencontres, quelquefois amoureuses, oui, mais les chemins se séparaient bien vite au fil des tournées. Olga ne put s'empêcher de fixer Pierre et Henri, Que ressentait-il devant cette confidence ? Il manifestait un intérêt certain, mais rien ne laissait supposer qu'il se sentait concerné. Que dire de plus ? Caroline avait entreaperçu les enfants de sa sœur, suffisamment pour deviner les charmes fragiles de l'enfance. Ensuite, elle avait dû épauler ses vieux parents, les accompagner jusqu'à leur départ. Passée la soixantaine, elle avait éprouvé une fatigue, posé ses valises dans cette lointaine banlieue de Paris, acheté une petite maison pourvue d'un jardinet, donné quelques cours de théâtre, pris le temps de rester sur une chaise, assise, sans plus rien faire qu'observer ce qui l'entourait. Voilà une dizaine d'années, il y eut la maison de retraite parce qu'elle ne pouvait plus s'assumer seule et rien à dire de plus. La rivière s'était tarie. On devinait le cours d'un ruisseau, frêle mais tenace, qui continuerait de couler rien que pour elle. La journaliste se tourna vers les deux autres vieillards pour recevoir leurs confidences. Pendant ce temps, la grande salle s'était remplie de spectateurs. Et ce fut l'heure de s'y rendre pour assister à la séance.
C'était pas tout à fait la France en 1943, mais c'était les années Garance, les années Prévert et Cosma. C'était pas tout à fait la France en 1943, mais c'était les années Garance. Tu te souviens de ce temps-là, Mamselle Batia, Mamselle Batia. C'est pas un nom pour faire du cinéma, mais Arletty, c'est plus joli et beaucoup mieux pour conquérir Paris. C'était le temps du gazogène, des rations, des topinambours, traînaient Clavo et Marjolaine. Que reste-t-il de nos amours? C'était pas le meilleur des mondes, Paris libéré, sans valise, on arrête Madame Raymonde. Hôtel du Nord en une seule prise, pour une belle prise, c'est une belle prise, dit-elle au béret qui la suive. T'as 40 ans, un drôle d'accent, et le noir et blanc te va comme un gant. Te revoilà juste après la guerre, en 1948, la France a changé d'atmosphère, après le voyage au bout de la nuit. Un peu plus de citron dans la voix, comme le perroquet de Céline qui cause dans l'arrière-cuisine de ton frangin de Courbevoie. Marie Katsa, Marie Katsa, t'as du talent, en veux-tu, en voilà. De l'ambigu, de l'ingénu, et du vécu comme de bien entendu. Avec ton sourire de joconde et ton costume de troubadour, l'humeur garçonne ou vagabonde, selon les hasards de l'amour. Prévert a mis ta vraie nature dans tous ses rêves de liberté, et tu dois à Marcel Carnet des personnages sur mesure. Monsieur Carnet, Garance a les hommes à ses pieds, Robert Macaire et Lassenaire, tous les enfants du paradis sur terre. C'est le talent des comédiennes de passer de la vie à la scène. Toi, tu peux indéfiniment régner de la rue à l'écran. Grande dame du macadam, Néfertiti parisienne, tes yeux se ferment sur Paname. tu ne vois plus couler la Seine. Madame sans gêne, madame sans gêne, tu ne vois plus couler la Seine. Mais dans le noir de ton regard, le jour se lève tous les soirs.
Au chant, Patrick Hannet, sur un album qui s'appelle Étranger à personne. C'était le titre numéro 12 qui s'appelle Arletty. Ça tombe bien pour un conte qui parlait d'une comédienne. Merci Roselyne de nous avoir partagé en direct cette lecture. C'est un exercice qui n'est pas facile à faire en direct dans une radio, de lire un conte. Merci d'avoir bien voulu essayer cet exercice. Donc on peut maintenant parler un petit peu de ce recueil. On n'avait pas annoncé le titre au départ avant la lecture, c'est L'Ange
du Transsibérien.
Voilà, donc je te laisse un petit peu peut-être parler dans l'ensemble de ce recueil. Quand est-ce qu'il a été fait, combien il y a de contes dedans, et où est-ce qu'il est édité, où est-ce qu'on peut le trouver?
Alors peut-être parler un tout petit peu d'abord de la fin de la nouvelle, peut-être la signer la nouvelle, et puis après je reparlerai de l'ensemble du recueil. La nouvelle donc s'appelle Voulez-vous danser grand-mère, et c'est une nouvelle, c'est intéressant qu'on l'ait choisie d'ailleurs pour la lecture, parce qu'elle situe bien mes deux pôles d'intérêt. Là, en l'occurrence, j'avais deux envies. D'une part, de parler de la maison de retraite. Ce n'était pas facile parce que c'est triste, la maison de retraite. Et je cherchais un sujet qui ne soit pas trop triste. Et la deuxième partie, c'était d'utiliser une aventure qui m'est arrivée personnellement. Bon, je ne suis pas une vieille comédienne en maison de retraite, mais j'ai eu un film qui est sorti en 1973, j'avais le rôle principal féminin, et qui est ressorti en 2015 dans les mêmes conditions que cette nouvelle. Alors là, on est à peu près aux deux tiers de la nouvelle. La fin, c'est donc que la vieille comédienne découvre son film avec toutes les émotions que ça peut générer, et puis voilà, tout le parcours jusqu'au retour à la maison de retraite. Évidemment, elle n'est plus la même, mais surtout aux yeux d'Olga, l'accompagnatrice, n'est plus du tout la même personne. Alors pour aller vite, je parle aussi maintenant un petit peu de mon recueil. C'est un peu un recueil... J'ai toujours aimé partir de choses réelles, c'est-à-dire d'un détail qui pouvait m'impressionner, d'une anecdote, voilà, qu'on capte quelquefois au détour d'une conversation, ou quelquefois de confidences qu'on a pu me faire. Et c'est à partir de ça que j'aime bien ensuite développer, en laissant un peu mon imagination libre cours, quoi, laisser libre cours et pouvoir... voilà, les nouvelles, c'est un format que j'aime beaucoup, parce qu'il y en a des courtes, des longues, et ça me convient bien. J'ai donc essayé là d'écrire un roman, je suis arrivée à l'écrire, je suis arrivée à le développer, mais ça ne m'était pas très facile. C'est vrai que le développer ne m'est pas toujours très facile. Est-ce que j'ai répondu? Alors, le livre s'appelle donc L'Ange du Transsibérien, et on le trouve en librairie partout, il faut le commander souvent, ou sur le net. Et l'éditeur, c'est Jérôme Do Bentinger, Bentzinger. Mais si vous demandez, déjà, quand on demande L'Ange du Transsibérien, Roselyne Viomé, on peut tomber sur les références.
Et puis, tu as peut-être un site ou un Facebook aussi, où on peut te contacter comment, toi, si... Est-ce que tu communiques avec les auditeurs? Tu n'as pas de lien direct pour te poser des questions?
Non, pour le moment, d'accord. Pas encore. Peut-être qu'il faudra que je mette.
Donc, de toute façon, je mettrai l'émission en ligne. Et donc, Roselyne Viomé, V-I-2-L-A-U-M-E, accent aigu.
Oui.
Comme ça, je pense que si on fait un moteur de recherche avec ton nom, on peut retrouver facilement le titre.
Alors, L'Ange du Transsibérien. Je suis comédienne et metteur en scène, ce qui explique que j'ai oublié de le préciser au départ. Donc, qu'effectivement, la comédienne de la nouvelle que je viens de lire a un petit peu de moi. C'est pour ça que je l'ai appelée Caroline. Moi, je m'appelle Roselyne. Elle a une moitié de moi qui est... Je me suis servie de ma vie de comédienne réelle pour la nouvelle. Par contre, la vie privée n'est pas du tout la même que la mienne, ça je peux vous le dire. Donc voilà, c'est un mélange entre un personnage inventé et une partie de moi.
Ah, moi j'avais une question sur... un terme dans le conte qui m'a surprise.
C'est une nouvelle, hein, c'est pas un conte.
Oui, c'est une nouvelle, d'accord. Qu'est-ce que c'est un prédateur affable pour toi ?
Ben, c'est deux mots qui ne vont pas du tout ensemble. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant. C'est
un oxymore.
Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que ça arrive souvent dans ce métier. En réalité, quand on travaille avec des metteurs en scène, que ce soit théâtre ou cinéma, et j'ai moi-même été metteur en scène, j'ai moi-même été un prédateur, j'espère, affable, on est amené, quand on dirige comme ça un projet et qu'on fait travailler des gens, d'utiliser tout ce qu'ils ont, d'utiliser ce qu'ils ont, surtout au cinéma. Au cinéma, on vous utilise vraiment pour ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'on utilise aussi vos faiblesses, on utilise tout. Et au théâtre aussi, d'ailleurs. Et c'est pour ça, prédateur, parce que le prédateur, il se saisit de ce qu'il peut, enfin de ce qu'il trouve, de ce qu'il a.
C'est pas un peu terrifiant avec...
mais, oui, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais, et affable, parce que c'est toujours fait, la plupart du temps, dans une grande gentillesse. On ne se rend pas toujours compte, mais en fait, on est un peu vampirisé quand on est comédien. Mais la plupart du temps, c'est pour du bien. C'est pour un résultat qui est tout à fait voilà, réconfortant, qui est très intéressant. Donc, mais il y a quand même quelque chose du prédateur.
Tu veux dire que les comédiens sont un peu instrumentalisés par
ben, ils sont
le réalisateur
utilisés, ils sont utilisés, en tout cas. C'est certain. Et, mais de toute façon, encore plus au cinéma. Parce qu'au cinéma, il y a en plus l'image, il y a le montage et tout, qui fait que le comédien ne maîtrise absolument pas l'ensemble de ce qu'il fait. Au théâtre, on maîtrise un peu plus. Parce qu'on a quand même le temps avec nous.
Est-ce que c'est pas le montage qui donne cette idée que du coup le comédien n'a pas le recul nécessaire avec le nombre de prises ?
En fait partie énormément, mais malgré tout, les choix du metteur en scène, les choix de travail en font partie aussi.
Est-ce que c'est une obligation de se comporter comme ça, ou est-ce que c'est certains réalisateurs metteurs en scène ?
C'est pas négatif, c'est normal. Quand on travaille avec des comédiens, le comédien, c'est comment dire, c'est une espèce de médium, enfin pas de médium, mais c'est un vecteur. On se sert forcément de sa matière, de ce qu'il est, aussi bien physiquement, car quand vous passez des castings, quand les gens vous, c'est souvent ce qu'on représente, et le physique et la sensibilité qu'on montre qui intéresse les metteurs en scène, enfin les décideurs, et c'est normal. Et donc c'est ce qui fait que le métier de comédien,
tu crois que c'est normal pour tout le monde?
Non,
mais je pense que c'est quand même assez excessif.
Alors après, c'est au réalisateur de ne pas exagérer. Mais c'est en tout cas un fonctionnement habituel. Alors il y en a qui le font d'une manière despotique. Et au cinéma, il y a des gens qui sont absolument odieux. Par contre, il y a aussi des gens qui le font, comme c'est le cas de ce réalisateur. Imaginaire, d'une façon affable, agréable, où on ne s'en rend pas vraiment compte, mais c'est sûr qu'il vous a quand même utilisé, qu'il a... Mais c'est pas, moi, je trouve que c'est pas forcément négatif, parce que moi, j'ai tourné aussi dans un film de Doyon, j'avais aussi un des rôles principaux, qui s'appelait Les doigts dans la tête, et Doyon avait utilisé mon journal intime. Donc ça, c'est quand même très particulier. Pour écrire le personnage.
Il ne l'a pas fait contre ton gré.
Non, il ne l'a pas fait contre mon gré, mais on ne réalise pas toujours ce qu'on fait. Et
c'est autre chose.
Mon journal intime. Mais à l'arrivée, c'est très bien ce qu'il a fait. Simplement, moi, quand j'ai vu le film la première fois en séance privée, j'ai pleuré comme une madeleine. Parce que d'un seul coup, j'ai retrouvé ce que j'étais quelques années auparavant. Et l'adolescente que j'étais, avec tous ces questionnements, avec toutes ces angoisses, etc. Donc ça m'a fait quelque chose, mais à l'arrivée, je trouve quand même qu'il a eu tout à fait raison, et que ce qu'il en a fait était intéressant. Je continue à dire que je pense que c'est normal pour un comédien que le metteur en scène se saisisse de la matière qu'il est. Quelquefois ça fait un petit peu mal, mais pour moi ça fait partie de l'histoire.
Est-ce que l'acteur doit être un petit peu maso ou pas forcément ? On a souvent l'idée des grandes stars qui sont un peu caractérielles. Alors c'est très contrasté finalement comme palette relationnelle et personnalité.
C'est toujours très difficile. C'est toujours très difficile parce que c'est effectivement des relations très complexes d'une manière générale. Et c'est sûr qu'il faut être assez équilibré pour traverser. Parce que moi, quand j'étais jeune comédienne, j'ai pas mal tourné. J'ai tourné aussi avec Tavernier, etc. Et je me suis trouvée, effectivement, j'ai jamais été très malmenée, hein, Dieu merci, mais dans des situations pas simples. J'ai aussi passé un casting avec Fellini. J'en suis ressorti en pleurant, là aussi comme une madeleine, parce que ça a été extrêmement difficile, il a été très désagréable avec moi. Et je veux dire, voilà, ça fait partie de l'histoire, ça aussi. Je veux dire, on rencontre des gens quelquefois très connus, des gens qui importent beaucoup pour vous et tout, et puis voilà, ça se passe pas toujours comme on voudrait que ça se passe.
Roselyne, c'est passionnant, j'aimerais te poser plein de questions, mais il est bientôt l'heure, et voilà, donc je te réinvite avec grand plaisir une prochaine fois pour raconter tout ça, parce que du coup on a envie de poser plein de questions. On a fait le choix, je me permets de dire « on », parce qu'on s'est vu avant au café, pour dire qu'est-ce qu'on décide de faire, dans quel ordre. On savait que cette nouvelle allait prendre du temps dans l'émission, on a fait ce choix-là pour cette émission, mais je te réinvite avec grand plaisir si tu as d'autres disponibilités,
pour
pourquoi pas pour parler du complaint du point noué. On fait une dernière chanson, peut-être qu'on sera obligé de la couper, je m'en excuse, mais il est déjà 55. Allez, à très vite.
Sur les eaux tranquilles, que les peupliers regardent passer, regardent passer pour l'éternité.
À l'horizon du Front populaire,
il y a même la lune et l'étoile polaire qu'un gamin déniche en regardant le ciel depuis sa péniche. En regardant le ciel dans l'eau des canaux et qui voit des zéros, des zéros, des zéros, des zéros, des zéros. Dans la valise à Vigo, il y a tout ce qu'il faut pour vivre sur l'eau éternellement. Elle est si légère, 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 elle fait zéro kilo, la valise à Vigo.
Voilà, il est déjà bientôt l'heure de se quitter pour Patchworld. Donc je m'excuse d'avoir pas pu mettre la musique en entier, mais je vous promets d'inviter Patrick Hanet pour présenter paisiblement, sur une heure d'émission, tout l'ensemble de ses chansons. Le CD s'appelle Étranger à personne et l'extrait que vous venez d'entendre, c'est La valise à Jean Vigo. Et la chanteuse qui accompagnait Patrick Hanet sur cette chanson s'appelle Marine Desola. Alors, je me précipite sur ces deux minutes qu'il me reste pour vous rappeler que ce soir, il y a en concert Rita Plage, Attentat à la pudeur, et je vais y aller. Dimanche, au comité des fêtes de Vienne, donc à côté de Lyon, là où se passe également le jazz à Vienne, de 10h à 18h. Ce dimanche, il y a plusieurs groupes, des slameurs, des peintres et des éditeurs, des écrivains qui exposent toute la journée de 10h à 18h. Et donc c'est le Cercle des poètes viennois qui propose cette animation. Donc dimanche, Zen Altitude, Urdé Gavroche et bien d'autres feront aussi également des concerts. C'est tout entrée libre, donc n'hésitez pas à aller voir. Toujours à Vienne, ça tombe bien, donc la galerie Letty, c'est Anne-Françoise Giraud qui va exposer du 16 au 28 février les traboules de Lyon en collage, etc. Donc ça, j'aurai le temps de vous en reparler un petit peu. Nathalie Aiguelem, en mars, avec ses pinceaux et ses couleurs à Rufisque, a un projet avec trois écoles en soutien aux une association locale pour les femmes en situation d'exclusion dans les rues. On en reparlera aussi. Et puis, surtout, si vous aimez dessiner et peindre, vous voyez, en ce moment, c'est bien pour changer un petit peu de la musique, dans la couleur et le dessin. Amorem, c'est une artiste extrêmement douée qui fait beaucoup de portraits en pastel, mais qui utilise plusieurs techniques. Mais je l'ai vu faire des démonstrations en direct et c'est assez bluffant. Donc Amorem, A-M-O-R-E-M, si vous tapez son nom d'artiste, vous allez trouver certainement des choses qu'elle a exposées. Elle fait des stages sur Lyon, elle c'est pas tous les jours parce qu'elle vient de Grenoble, donc c'est dans le 5e, il y a plusieurs stages. Si vous cherchez Michel Cossin-Bellon, vous allez trouver ces stages. Donc c'est rue Saint-Georges, je crois, donc c'est à Saint-Georges. fois, je crois que j'ai oublié personne. Dans quelques instants, c'est Lilith, Martine et les autres. Merci Roselyne d'avoir accepté cette invitation.
On en a écouté trois groupes au projet solo de
Et n'oubliez pas